Chapitre 22. Monastère Taungkalat, Mongpopa, Birmanie. 727e marche. Galiléo Nemrod avait l'habitude de se téléporter à quelques mètres du sommet de l'impressionnant escalier du monastère Taungkalat et de gravir les 50 dernières marches à pied. Le monastère était bâti en équilibre sur le mont Popa, une cheminée volcanique qui dominait la plaine birmane de plus de 1000 mètres. La dizaine de coupoles et d'ombrelles dorées du temple se repéraient à plusieurs kilomètres alentour, offrant l'illusion qu'aucun homme n'aurait pu bâtir un tel nid d'aigle et qu'il avait été posé là par un architecte extraterrestre. Galiléo Nemrod atteignit le monastère sans forcer l'allure, indifférent au vide vertigineux qui bordait l'escalier de pierre. Trois gardes se tenaient devant la porte principale, surveillant en permanence la jungle en contrebas et la plaine birmane qui s'étendait à l'infini. Nemrod aimait s'imprégner de cette sensation de sécurité. L'ancien monastère du mont Popa constituait un refuge parfait. Son espace privé était le plus sécurisé de toute la planète, et nul ne pouvait s'en approcher sans être repéré à des kilomètres à la ronde. Il n'existait aucun autre accès terrestre que l'escalier à flanc de falaise. Seuls les singes qui occupaient le site depuis des millénaires perturbaient la sérénité du lieu. Pour la plupart des Géladas, ces singes lions, cousins des babouins, dont on prétendait qu'ils étaient déjà présents sur la terre entière depuis la nuit des temps, avant que les continents ne se séparent. Régulièrement, les gardes les attrapaient, se téléportaient dans les forêts voisines pour y abandonner les primates et revenaient seuls. Mais les singes finissaient toujours par retrouver la route de l'ancien temple bouddhiste. Les gardes se figèrent dans un salut martial pour laisser entrer le président. « Bonjour, Simès. Bonjour, Tourlac. Repos, je vous en prie. » Peu de personnes sur Terre, à l'exception d'une poignée de gardes assermentés, savaient que le siège de Pangaea était installé dans cette forteresse. Galiléo Nemrod traversa une série de pièces au plafond recouvert de bois et d'or. Des colonnes de marbre soutenaient des poutres peintes racontant l'épopée des grands nattes, les esprits vénérés de Birmanie. Entre les salles, de longs couloirs n'étaient éclairés que par d'étroites fenêtres s'ouvrant sur le vide. Nemrod continuait de marcher, croisant avec indifférence les étranges statues des panthéons hindous et bouddhistes dont les cultes s'étaient succédés dans le temple. Éléphants, aigles, lions, cygnes, ou femmes à six têtes et quatre bras. Qui aurait pu imaginer qu'au milieu des bouddhas dorés et des tridents de Shiva, se trouvait le centre de calcul le plus puissant jamais conçu par l'homme. Le président de l'OMD franchit de nouvelles portes de bois massif avant de parvenir au cœur de Pangaea. Oui, il était difficile de se représenter que les quelques ordinateurs quantiques de dernière génération, stockés dans cette simple pièce d'une centaine de mètres carrés au centre du temple, géraient tous les déplacements sur Terre, autorisait ou non chaque téléportation, au total des milliards de milliards d'informations chaque seconde, permettant de calculer en temps réel les taux d'occupation de chaque point de la planète, de protéger les espaces privés, d'enregistrer chaque mouvement de chaque TPC attribué à chaque être vivant. Nemrod entra. Personne, même les journalistes les mieux informés, ne connaissait le fonctionnement de Pangaea. La plupart des terriens devaient se figurer qu'il s'agissait d'un gigantesque programme informatique régi par des algorithmes extrêmement complexes développés et contrôlés par des dizaines d'ingénieurs. C'était d'ailleurs globalement la vérité. C'est ainsi qu'était né ce programme. Des milliers d'informaticiens pendant des années avaient conçu Pangaea, un algorithme qui pouvait fonctionner sans intervention humaine. Les calculs et les autorisations de déplacement ayant été intégralement automatisés pour garantir la liberté maximale de tous, tout en respectant les principes de la Constitution de 2058. Petit à petit, le nombre d'ingénieurs au sein de Pangaea avait diminué, pour se limiter à moins d'une centaine, puis d'une dizaine. Pangaea avait continué d'évoluer sous forme d'intelligence artificielle vers toujours plus d'autonomie et le nombre d'interventions externes s'était encore réduit, jusqu'à ne plus être maîtrisé dans sa globalité que par un seul cerveau humain. Bien entendu, beaucoup d'autres réparateurs, informaticiens, électroniciens, géographes, démographes, architectes, physiciens, collaboraient ponctuellement au programme. Mais à présent, un seul esprit contrôlait l'ensemble de sa complexité. Nemrod s'avança. La pièce ne ressemblait en rien à celle des vieux films de science-fiction. Elle était semblable aux autres salles du temple, vastes, vides, simplement décorées de colonnes couvertes de symboles bouddhiques et d'un alignement de statues, les 37 nattes birmans, représentées avec tant de réalisme qu'on aurait pu les croire vivants. Un seul ordinateur tournait dans un coin, relié à un écran de la taille d'une grande télévision. Devant lui, Nemrod observa une silhouette, assise, de dos. « Bonjour !» lança le président de l'OMD. « Bonjour, Pangaea !» La silhouette face à l'écran n'esquissa pas le moindre geste. Ce fut le président qui s'avança une nouvelle fois. Quand il parvint à mettre derrière elle, elle tourna enfin la tête. Uniquement la tête. Nemrod dominait de toute sa lourde carrure une femme d'une trentaine d'années, entièrement sanglée sur son fauteuil, le tronc attaché au dossier. Les jambes de l'informaticienne pendaient, telles des tentacules morts. Ses bras posés sur le bureau étaient maintenus par de fines tiges de fer, alors que chacun de ses 10 doigts était relié par des fils à la mémoire centrale de l'ordinateur. Des doigts qui s'agitaient sans cesse dans le vide, semblant pianoter à toute vitesse sur un clavier invisible. Le visage de la femme, vif et alerte, presque adolescent, contrastait avec son corps de pantin désarticulé. Il s'éclaira d'un large sourire quand elle découvrit Nemrod. « Bonjour, Pangaea !» répéta Nemrod. « Je t'ai apporté une surprise !» Il tenait une petite tortue de quartz rose dans sa main. « Merci !» répondit la femme. « Merci, papa !» Nemrod avait tiré une chaise et s'était assis à côté de sa fille. Elle l'écoutait, répondait, sans cesser d'agiter les doigts, ni que, sur l'écran devant elle, ne ralentisse le défilé de chiffres et de lignes de code. Le président posa la tortue de quartz à côté des autres, plus d'une centaine, en argent, en onyx, en verre, en cristal, exposée sur une série d'étagères à droite de l'ordinateur, que Pangaea pouvait ainsi admirer en tournant la tête, même si elle ne pouvait pas les toucher. Son père lui en rapportait du monde entier. C'était sa façon de voyager. « Je viens d'avoir le commandant Akinis sur sa tabletta, » fit Galiléo. « Il pense, avec son équipe, avoir découvert la planque d'un passeur, un type qui utiliserait des TPC clandestins récupérés sur des morts non déclarés. » Pangaea, sans ralentir la danse de ses doigts, répondit avec calme. La maturité de son phrasé, lent et posé, tranchait avec les tonalités parfumées d'une voix aux accents adolescents. « Ce n'est pas très étonnant, papa. Chacun reçoit un TPC à sa naissance. Il est gratuit, personnel. C'est devenu un prolongement corporel de chaque terrien et de chaque terrienne. Voler un TPC à quelqu'un n'a pas plus d'intérêt que de lui voler son cœur ou ses yeux, même moins si l'on y réfléchit. Dans les rares cas de vol, les TPC sont signalés au bureau d'investigation criminelle et sont immédiatement déconnectés. Exactement comme jadis les cartes bancaires ou les téléphones portables. Le défilé des chiffres sur l'écran ralentissait, imperceptiblement. Bien entendu, il est possible d'utiliser les TPC de terriens dont on ignore la mort. Le moindre amateur s'y connaissant un peu en informatique en est capable. Mais, je te rassure, ça ne doit concerner que quelques rares cas. Quel intérêt y a-t-il à acheter un TPC à un trafiquant alors que tout le monde en a déjà un ? Galiléo Nemrod repositionna une tortue de malachite dans l'alignement précis de ses voisines. Monking, le singe-lion préféré de Pangaea parmi ceux qui revenaient sans cesse occuper le monastère Taunkalat, avait dû s'amuser à la déplacer.
« Ça en présente un pour les criminels, » fit gravement le président. « Ceux dont le TPC est surveillé, limité, bloqué. »
Un large sourire illumina le visage de Pangaea.
« Papa,
Le taux de criminalité n'a jamais été aussi bas de toute l'histoire de l'humanité. Des PC clandestins ou pas, les espaces privés sont protégés. Les gens se téléportent chez eux au moindre danger. La base de données Pangaea permet de localiser n'importe quel voleur, violeur, assassin à partir du moment où il a été photographié ou filmé. Ce trafic de TPC clandestins ne concerne qu'une poignée de marginaux qui craignent d'être fichés, des fugueurs, des amants illégitimes qui veulent refaire leur vie. De quoi as-tu peur, papa ?
Le président avança sa chaise et posa sa main sur la jambe sans vie de sa fille. Tu as suivi l'actualité. Tu as vu, écouté, l'assassinat de ces 10 Allemands. L'attentat déjoué au Maracanã. Tout ça 2 jours avant la cérémonie du centenaire.
Les Liberstados? C'est à eux que tu penses? Je croyais que ces nationalistes n'étaient que des pacifistes inoffensifs, nostalgiques du temps d'avant.
Je ne sais pas, Pangaea. Sur Tetamanu, le meurtrier a laissé le livre d'Ossian, droit du sang. Il a gravé un mot sur un tronc. Pichipoy.
Pichipoy? Le président s'autorisa un sourire, à demi masqué par sa barbe. Aussi phénoménales soient les capacités du cerveau de sa fille, ça ne l'empêchait pas, à l'instar de la majorité des terriens de sa génération, d'ignorer des détails essentiels de l'histoire.
C'est un mot yiddish, une langue ancienne. Il pourrait signifier quelque chose comme « lieu de nulle part », un lieu tabou, hors la loi.
Le timbre de la voix de Pangaea prit celui, moqueur, d'une petite fille qui ne croit plus aux mensonges de ses parents.
« Ce genre de lieu n'existe plus, papa, pas depuis la téléportation, pas depuis Pangaea !»
Nemrod serra la cuisse de sa fille, doucement, même s'il ne pouvait lui faire mal.
« Ma chérie, je n'ai pas fini. » Ce mot, Pichipoy, a pris une autre signification pendant la Seconde Guerre mondiale. Il désignait pour les Juifs persécutés, ceux qui attendaient d'être emmenés dans des wagons blindés, la destination inconnue vers laquelle ils seraient emportés. Quelque part, très loin, pour n'en jamais revenir. Dans ce sens, Pichipoy a un synonyme très précis. Déportation.
Pangaea prit le temps de réfléchir. Les lignes de code sur l'écran s'étaient remises à accélérer.
« Papa, personne sur Terre ne peut être déplacé contre son gré. Article 4 de la Constitution de 2058. Et personne ne le sera jamais tant que je serai là. Pangaea, je te parle de cette base de données, pas de moi, est au service de la liberté. » Son algorithme permet seulement de limiter les déplacements de chacun pour respecter les espaces privés, de rendre les taux d'occupation acceptables, afin que chacun puisse vivre en harmonie. Certains terriens peuvent être partiellement privés de cette liberté de mouvement, mais nul ne peut être déplacé contre son gré.
Le président aimait croiser le regard de sa fille quand elle s'exaltait pour défendre ses convictions. Un regard aussi puissant que la jambe de Pangaea sous sa paume était fragile.
Je sais, ma chérie, je sais tout cela. Je connais l'idéal que nous défendons. C'est pour cela que je veux célébrer ce centenaire de la téléportation, construire cette nouvelle Babel, pour que les gens n'oublient pas le privilège que représente cette liberté, ni la responsabilité qu'elle implique. Mais n'est-ce pas faire courir un trop grand danger à l'humanité ?
Pangaea posa sa tête sur l'épaule de son père. Le seul geste de tendresse qu'elle pouvait exprimer.
Ton projet est formidable, papa. Ce sera un des plus grands événements depuis...
Elle sembla chercher une comparaison dans sa tête.
Depuis les pyramides d'Égypte et l'invention des Jeux Olympiques. Tu as vu comme moi, l'Ecclésia est favorable à ta commémoration. Les députés du Congrès t'ont traité de fou, mais les terriens te suivent.
Sur l'ordinateur commandé par les invisibles terminaisons nerveuses de Pangaea, s'afficha un énorme 63% clignotant, alors que des feux d'artifice envoyaient des chiffres 100 aux quatre coins de l'écran.
Parce que les terriens ignorent la menace, ma chérie. Parce qu'ils ignorent qu'il existe des TPC clandestins. S'ils l'apprenaient, plus aucun n'adhérerait au projet de la nouvelle Babel.
Les chiffres 100 pleuvaient toujours.
Jamais les doigts de Pangaea ne s'étaient agités aussi vite. « N'y renonce pas, papa. C'est ton rêve. Et il va devenir celui de tous les habitants de la terre. »
Galiléo s'approcha d'une fenêtre et observa la jungle quelques centaines de mètres plus bas. Il eut la sensation de s'être téléporté au sommet d'un phare, entouré d'un océan de palmiers dont la canopée s'agitait de calmes vagues. Il releva la tête vers les coupoles du temple. Des singes-lions s'amusaient à sauter entre les ombrelles sculptées superposées. Il reconnut Mon King, moins joueur que les autres, assis en équilibre sur le toit sphérique, occupé à éplucher avec une concentration presque comique une banane trop mûre. Une voix mélancolique résonnait dans la tête du président.
« Tu as raison, Pangaea. La nouvelle Babel est le rêve de tous les habitants de la terre. Tu es la seule à qui ce rêve est interdit. »
Pangaea insistait, soucieuse de chasser les doutes de son père.
« Ne t'inquiète pas, papa. Je vais croiser les milliards de données dont on dispose. Je vais repérer dans les fichiers de l'Organisation mondiale de la santé, parmi les patients déclarés gravement malades, ceux qui continuent pourtant de voyager dans le monde entier. Je vais lister parmi les individus déclarés disparus par leurs proches auprès du bureau d'investigation criminelle, ceux qui continuent pourtant de se déplacer en toute liberté. Je vais estimer le nombre de TPC clandestins en circulation et te prouver qu'ils ne constituent aucun danger. »
Sa figure s'éclaira d'un sourire angélique, celui d'une poupée qui ignore que le mal puisse exister.
« Papa, écoute-moi. Pangaea est la plus belle utopie jamais inventée. »
Galiléo Nemrod se pencha vers sa fille et appuya sa main tremblante sur sa cuisse de coton. Une poupée de chiffon.